Bonsoir, affaire Jean-Pierre Bemba, arrestation ce week-end des 4 personnes, parmi lesquelles Fidel Babala, député national et cadre du MLC, et maître Aimé Kilolo, avocat de Jean-Pierre Bemba. La CPI les accuse de subornation des témoins, c'est-à-dire d'avoir tenté de corrompre certains témoins. Quelle analyse faire de ces arrestations? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 25 novembre 2013. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat, professeur Jacques Ndjoli. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes sénateur de l'opposition et cadre du parti politique MLC. Vous êtes aussi professeur de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa. Professeur Tshibangu Kalala, président du parti politique Notre Beau Pays, parti de la majorité présidentielle, il est professeur de droit international à l'université de Kinshasa. Professeur Tshibangu, bonsoir.
Bonsoir, madame Kim.
Et maître Guy Mouchata, il est chargé des programmes lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle. Maître Guy Mouchata, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci parce que vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Vital Ouassi de Maïgui en province orientale. À mon avis, l'arrestation de ces hauts cadres du MLC est un signal fort qui vise à lutter contre la corruption et l'impunité. Mirugui Nestor de Kisangani en province orientale. Je ne comprends pas qu'une telle cour puisse arrêter quelqu'un sans laisser le temps à la défense de connaître le dossier. Cette situation illustre bien le caractère raciste de la CPI. A-t-on déjà vu des magistrats de cette cour exfiltrés de manière Cavalière, un citoyen non-africain? Merci de nous suivre à Mbandaka dans la province de l'Équateur sous la 103.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Participez à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Justice dans l'affaire procureur contre Jean-Pierre Bemba. La CPI annonce que 4 personnes suspectées de subornation des témoins sont aux arrêts depuis samedi et dimanche en Europe et en RDC. À Kinshasa, Fidel Babala, député secrétaire général adjoint du MLC, a été arrêté samedi par les autorités congolaises puis transféré à la Haye. En Europe, Aimé Kilolo, avocat principal de Jean-Pierre Bemba, a été arrêté à Bruxelles par les autorités belges. Jean-Jacques Mangenda, membre de l'équipe de la défense de Bemba chargé de la gestion des dossiers de l'affaire, a été arrêté par les autorités néerlandaises, tandis que Narcisse Arido, témoin cité à comparaître par la défense, lui a été arrêté par les autorités françaises. Les points avec Billy Van Lutumba.
D'après un communiqué de la Cour pénale internationale diffusé ce dimanche, toutes les personnes seront remises à la CPI ultérieurement, conformément aux procédures judiciaires applicables dans ces 3 pays. Ces personnes ont été arrêtées sur base d'un mandat d'arrêt délivré par le juge unique de la chambre préliminaire 2 de la CPI. Jean-Pierre Bemba Gombo est lui aussi suspecté des mêmes charges, précise ce document. Le suspect aurait constitué un réseau aux fins de produire des documents faux ou falsifiés et de corrompre certaines personnes afin qu'elles fassent de faux témoignages dans l'affaire concernant Jean-Pierre Bemba. Le greffier de la Cour pénal international, Herman von Ebel, a exprimé au nom de la Cour sa gratitude aux autorités de ces États pour leur coopération, rappelant qu'il s'agit des premières arrestations pour de telles charges devant la CPI.
En rapport avec l'arrestation du député national Fidel Babala, le gouvernement congolais précise qu'il n'a fait qu'exécuter un mandat de la CPI en tant que gouvernement d'un pays signataire du statut de Rome. Son porte-parole dit ignorer ce que la cour pénale internationale reproche à Fidel Babala. Lambert Mende le dit au micro dénonçant Olinga.
Le Fidel Babala a été interpellé par les services du procureur général de la République en exécution d'un mandat d'arrêt international délivré par le procureur près la Cour pénale internationale pour son transfert vers la Haye aux Pays-Bas.
Donc le gouvernement n'est pas impliqué dans cette arrestation?
Pas du tout, sauf que le gouvernement, c'est un gouvernement d'un pays membre du statut de Rome, donc membre de la Cour pénale internationale, qui a des engagements internationaux lorsqu'un mandat est émis par les bureaux du procureur près la CPI, le gouvernement est dans l'obligation de prêter assistance et main forte à l'exécution de ce mandat.
C'était là Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Professeur Charles Djoli, vous êtes sénateur de l'opposition et cadre du parti politique MLC. Vous êtes également professeur de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa. Décidément, ce week-end n'a pas été très bien pour le MLC. D'abord avec l'arrestation de Fidel Babala et puis l'assassinat de l'agence BDO, un président, je crois, fédéral du MLC Bakongo, qui était aussi un fidèle invité aux émissions de dialogue entre Congolais. Un commentaire par rapport à cette disparition?
Oui, c'est vraiment avec beaucoup de peine que nous avons appris la mort de notre collègue, avec qui nous venions d'assister aux manifestations commémorant le 15 ans d'existence du MLC. Le député honoraire La Dios Video est vraiment un engagé du MLC, et nous restons circonspects sur les circonstances de sa mort par trois hommes armés cagoulés qui n'ont rien pris et qui lui ont tiré trois balles. Et cette mort de sénateur, du député Bidio intervient après d'autres morts, notamment celle de député Botetti et celle aussi de député Gangalé. Tous ces meurtres restent opaques, il n'y a pas de justification. La justice reste dans une situation de confusion. Nous espérons vraiment que cette fois, pour la paix sociale, pour la crédibilité de notre justice, on pourra au moins nous dire qui a tué Bidio et pourquoi. Et on ne va pas s'arrêter au sempiternel homme armé non autrement identifié.
Merci professeur. Revenons à notre sujet du jour. C'est l'arrestation de Fidel Babala et quatre autres proches de Jean-Pierre Bemba. Ce week-end, ils ont été transférés à la Cour pénale internationale. Comment vous analysez, professeur, vous, toutes ces arrestations?
Ben madame, je crois que la justice là pour redresser les torts, lutter contre l'impunité et d'autres méfaits qui, n'est-ce pas, déstabilisent aussi bien notre société nationale que la scène internationale et la communauté internationale. Donc, à ce stade, nous ne savons pas, au-delà de ce que la presse a eu, et moi j'étais de l'équipe de défense de l'honorable Babala, nous estimons que l'honorable Babala est présumé innocent jusqu'à nouvel ordre. Nous regrettons simplement que depuis mai 2008, l'honorable sénateur Jean-Pierre Bemba est arrêté par la Cour pénale internationale. Ses procès tirent en longueur. Et voilà que nous avons terminé l'audition des témoins, aussi bien de la partie poursuivante que de la défense, subitement, alors qu'on s'est donné rendez-vous péniblement au mois de mai 2014 pour les plaidoiries et l'audition de l'accusation. On nous balance une nouvelle affaire. Et nous sommes un peu embarrassés. Nous n'allons pas parler d'acharnement sur le dossier Bemba, mais nous comprenons que la Cour, après ses auditions, est totalement déboussolée. Elle a plusieurs reprises changé de qualification de poursuite de Jean-Pierre. Pour ça,
vous voulez dire que la Cour n'a pas assez d'épreuves pour juger Jean-Pierre Bemba?
Personne ne peut entrer aujourd'hui dans ce que la Cour dira, mais dans les cheminements de ces dossiers que nous suivons, nous avons vu que la Cour, à plusieurs reprises, a dû changer de qualification de fait infractionnel mis à charge de Jean-Pierre. Tantôt il aurait dû, tantôt il a, et on était parfois sur l'article 25, on passait sur 28, et tout cela démontre que le travail de l'organe de poursuite était basé sur des éléments non fiables. Par contre, la rigueur et la de la défense à déstabiliser. Nous ne voulons pas à ce stade entrer dans le fond du dossier. Nous faisons confiance à la justice internationale, même si par ailleurs, aujourd'hui, sur la scène africaine déjà, on conteste, il y a un grand débat sur ce travail de la Cour pénale internationale, et nous ne comprenons pas, à la veille de l'Assemblée générale des États parties, cette précipitation de la Cour ou ces chevauchements d'agenda. Nous sommes un peu circonspects, mais nous ne voulons pas à ce stade entrer sur le fond. Mais ça nous étonne quand même que dans une justice internationale qui doit donner les signaux d'une justice libre et indépendante, que l'accusation qui est partie dans un procès puisse mettre en écoute un avocat, c'est-à-dire la défense, pour suivre sa stratégie de défense et sur base de cela, constituer une autre série d'incriminations. Nous sommes, je dois vous avouer, un peu circonspects sur le plan du droit. Peut-être que la procédure pénale internationale, qui est une nouveauté, est en train d'enrichir le droit, mais ça pose quand même un certain nombre de questions sur l'équité du procès, sur l'éthique et la démarche des uns et des autres. Mais à ce stade, voilà, nous attendons voir.
Par rapport à l'arrestation de l'honorable du député Fidel Babala, le MLC estime que la procédure n'a pas été respectée.
Oui, c'était surtout ce niveau-là que nous voulons aujourd'hui insister. Vous savez, madame, la République démocratique du Congo est l'État parti au statut de Rome. Nous nous sommes engagés et les statuts de Rome prévoient sa propre procédure, que lorsqu'il y a un État qui est requis et que cet État doit exécuter un mandat à la requête de la Chambre préliminaire, à tout le stade, n'est-ce pas, de l'évolution de la procédure, que ce soit pré-instructionnel ou au niveau de l'instruction, il est question ici de respecter la législation nationale. Et c'est là où nous avons énormément de problèmes. Et lorsque nous avons appris que l'honorable Babala a été arrêté à 2h45, c'est donc en violation de la législation nationale qui prévoit les heures d'arrestation.
Merci.
On nous dira qu'on a commencé la perquisition à 2h, à 6h, mais les OPJ se sont représentés dans quelles conditions? Dans des véhicules, des gens armés jusqu'aux dents avec de cagoules. Vous imaginez le traumatisme causé par ces coups de fusil et l'assaut de ces policiers.
Merci,
dans
professeur.
Une résidence d'une personne qui d'ailleurs n'a pas montré de résistance.
Merci,
donc, à
2h
du matin, la loi pénale prévoit les heures d'arrestation.
Merci professeur, on va revenir.
Oui,
on va revenir,
voilà,
à vous. Le temps pour moi de passer la parole au professeur Tshibangu Kalala. Il est président du parti politique Notre Beau Pays et un parti politique de la majorité présidentielle. Il est professeur de droit international à l'université de Kinshasa. Professeur, quelle est votre lecture par rapport à ces arrestations?
Oui, merci madame Akeli. D'abord, j'aimerais présenter mes condoléances à la famille du député honoraire Bidio qui a été lâchement assassiné. C'est très pénible. Ce fut un ancien collègue à l'Assemblée nationale et je suis vraiment triste d'apprendre qu'il a été tué et qu'il est mort dans ces conditions-là. Maintenant, pour revenir à la question du jour, j'aimerais dire ceci. D'abord, Monsieur Babala, député qui vient d'être arrêté, il traverse des moments difficiles. C'est des moments pénibles pour lui-même, pour sa famille, pour ses proches. Et je le présente comme mes sympathies. C'est un joueur, il joue dans une équipe qui n'est pas la mienne. On est des adversaires, on n'est pas des ennemis. Et donc, les moments qu'il traverse sont pénibles. Je le présente donc mes sympathies à sa famille, à ses enfants, à ses proches. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, s'agissant de la réaction de notre gouvernement. Madame Kelly, j'aimerais que les auditeurs de Radio Capi sachent qu'un gouvernement qui respecte la signature qu'il a apposée au bas d'un traité international, eh bien ce gouvernement inspire confiance auprès d'autres gouvernements qui ont signé le même document avec lui. Il force le respect des autres. Et il honore son pays, il honore son peuple. Dans le cas d'espèce, notre pays a ratifié le traité de Rome, le statut de Rome comme on l'appelle, créant la CPI en 2002. Et c'est grâce à la RDC, c'était la 60e signature ou la 60e ratification, que le statut de Rome est entré en vigueur et que la CPI a commencé à être mise en place. Donc, notre pays a assumé des obligations internationales pour dire que chaque fois qu'il y a une personne recherchée par la CPI, une personne contre laquelle la CPI a lancé un mandat d'arrêt, la RDC doit coopérer, doit procéder à l'arrestation de cette personne et de la remettre à la CPI. Donc, le gouvernement de la République, ayant reçu le mandat d'arrêt, n'a pas apprécié si ce mandat il est bon ou mauvais, etc. Eh bien,
le mandat a été émis le 20 novembre et le 23, je crois, le 23, oui, le député a été arrêté. C'est quand même allé trop vite.
Ben, trop vite par rapport à quoi? Le gouvernement de la République respecte la signature de la République et donc doit procéder à l'arrestation de la personne et de la remettre à la CPI. Bien entendu, M. Babala, comme mon collègue vient de le dire, est présumé innocente. Donc, personne ne dit qu'il est coupable, que ce qu'on lui reproche est fondé. Ça, c'est la question de la justice internationale. Il va s'en expliquer, assister de ses avocats. Donc, le gouvernement s'est limité à procéder à son arrestation. Donc,
le MLC estime que la procédure n'a pas été respectée. Les conditions même de cette arrestation
je ne vais pas rentrer sur le terrain de fait. Comment on l'a arrêté? Est-ce qu'on l'a tiré? Je pense que venir à minuit, à 2h du matin, dans une résidence, procéder
est-ce
à l'arrestation...
Est-ce que la législation congolaise prévoit cela?
Ça crée toujours un traumatisme. Lorsqu'on arrête un père de famille devant sa femme, ses enfants, etc., ce sont des scènes toujours pénibles, n'est-ce pas? Ce sont des souffrances, on comprend. Bon. Mais il faut distinguer ce qu'on appelle arrestation, ce qu'on appelle perquisition. C'est vrai que dans la procédure pénale, notre pays, pour les OPJ, il y a des heures qui sont fixées pour procéder à des perquisitions domiciliaires. Bon, on ne peut pas venir pendant la nuit commencer à faire des perquisitions. Bon, il y a des heures, je peux préciser.
Mais pour les arrestations?
L'arrestation, on peut arrêter quelqu'un à tout moment. Si vous avez affaire à un bandit, un bandit qu'on recherche, on trouve qu'il est caché quelque part, n'est-ce pas? On le poursuit, on le recherche, on l'attrape, là où il est, on l'arrête. Bon, on ne va pas dire, bon, attendons à midi pour procéder à son arrestation parce qu'il peut se déplacer. Donc, quoi qu'il en soit, je ne suis pas là sur le terrain des faits, comment on a arrêté, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais. Je me situe sur le terrain du droit international pour dire que le gouvernement de la République a honoré la signature du peuple congolais, la signature de la République, en procédant à l'arrestation du député Babala, qui est toujours innocent, présumé innocent, pour l'envoyer à la CPI. Et donc, de ce côté-là, il n'y a pas de reproche à lui faire. Les conditions d'arrestation, je ne vais pas rentrer là-dedans.
Je vais vous donner la parole, professeur Jacques Joly. On va prendre pour vous, professeur Tshibangu, cette réaction qui nous vient de Mbujimayi au Kassai oriental.
Galvanie sur Placide en Mbujimayi au Kassai oriental. Cette situation est très complexe et mérite d'être traitée sans complaisance par le gouvernement congolais, fait que ces derniers prônent la cohésion nationale. Car voyant la célérité par laquelle le gouvernement a transféré un élu du peuple présumé innocent et les réserves émises par le même gouvernement lors du transfert d'un rebelle Bosco Taganda, cela est paradoxal. Le choix est clair entre le désir de plaire aux autres ou d'être bon élève pour la consommation extérieure et la cohésion nationale, mais aussi la paix intérieure chèrement acquise.
Comment vous réagissez à cette préoccupation de Galvani qui nous écrit de Mbujimayi?
Oui, non, mais il ne faut pas faire la confusion. Le cas de Taganda intervient dans un contexte tout à fait spécial. Il y avait un accord qui avait été signé entre le gouvernement et le CNDP à l'époque. Ce monsieur faisait partie, il était général au sein de l'armée, il commandait des troupes. Eh bien, il y a eu toute une discussion, à savoir, est-ce que, entre la paix et la justice, qu'est-ce qui prime? Eh bien, moi j'étais d'avis à l'époque que la paix prime à la justice.
Et entre la cohésion nationale promise par le chef de l'État et la justice...
Je vais terminer. À l'époque, on pensait que pouvait s'adresser mon conseil de sécurité, parce qu'il a le pouvoir d'arrêter les poursuites. L'article 16 du statut de Rome est clair à ce sujet. Donc on se disait, est-ce qu'on peut procéder à l'arrestation de quelqu'un? Et cette arrestation va déclencher la guerre dans le pays, des troubles généralisés. C'était un choix à faire. Mais cette question est déjà dépassée parce que Ntaganda était déjà à la CPI.
Donc il s'est rendu lui-même.
Oui, mais il a fui le pays. Bon, il est parti, on l'a arrêté, il est parti. Il est déjà... Le cas actuel, c'est le cas du fonctionnement normal de la justice internationale. Un mandat d'arrêt a été émis et le gouvernement l'a exécuté. Quant à savoir la cohésion nationale, mais Madame Kelly, il ne faut pas exagérer, la cohésion nationale ne signifie pas l'impunité. Bon, tous les jours ici, tous les jours, même aujourd'hui même, il y a des Congolais qui ont comparu devant des OPJ, devant des magistrats, pour être interrogés, pour être entendus sur des faits qui sont mis à leur charge.
Merci, professeur.
En faisant cela, les magistrats n'attaquent pas la cohésion nationale. Donc le cas de Babala, c'est un cas, il n'est pas condamné, il est toujours innocent. On l'a envoyé devant le juge, il va s'expliquer. Et le gouvernement, comme je l'ai dit, le gouvernement a honoré son engagement international, a honoré la signature du peuple congolais, et moi, je m'en réjouis.
Merci, professeur Tshibangu Kalala. Maître Guy Mouchata, vous êtes chargé des programmes lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle. Vous collaborez, cette structure collabore avec la CPI. Maître Guy Mouchata, cette émission est aussi pédagogique pour nous aider à comprendre le fonctionnement de la justice internationale. Quelle est votre lecture ou votre analyse par rapport à ces arrestations?
Merci beaucoup, madame. Si nous devons rester dans le point de vue strictement juridique, le charge ou la charge qui est mise sur le dos ou sur la tête des individus qui ont été arrêtés sont bel et bien prévus dans le statut de Rome. Il s'agit de l'atteinte donc à l'administration de la justice. Ce genre d'infractions sont certes un peu
nouvelles. Maître Guy Mouchata.
Et dès lors, je pense que par rapport à beaucoup de nos compatriotes, apparaissent comme étant un peu injustifiées. Mais je pense que, comme l'ont dit les deux professeurs qui sont au niveau du studio, donc ces personnes qui ont été arrêtées restent innocentes. Et la procédure déterminant exactement si ces charges sont fondées ou bien sont infondées.
Alors, il y a le président du groupe parlementaire MLC à l'Assemblée nationale qui a estimé que la compétence de jugement revenait d'abord à la justice congolaise.
Et à ce niveau, juste la justice congolaise, lorsqu'un mandat est émis, est compétente seulement pour ce qui concerne la procédure d'arrestation au niveau de l'État parti. Mais l'État parti n'a pas à juger du bien fondé ou non, n'est-ce pas, du mandat, mais seulement la procédure dans l'état d'arrestation, la procédure prévue pour arrêter un individu doit obligatoirement et nécessairement être respectée.
Mais est-ce que les États sont obligés de transférer, par exemple, un des leurs lorsqu'ils sont accusés, par exemple, de corruption ou de vouloir corrompre les témoins? Est-ce que les États ils sont vraiment obligés à transférer leurs concitoyens ou leurs citoyens?
Oui, effectivement, parce que je pense, si je ne me trompe pas, l'article 70 oblige les États justement à coopérer même dans ces cas. Et même les oblige à prendre des mesures pour intégrer ces types d'infractions, donc d'atteinte à l'administration, à la justice, dans leur propre législation. Et justement, il faut déplorer que, à ces jours, donc, le statut de Rome n'a pas encore été, je dirais, intégré, bien que faisant partie de notre législation, parce que nous sommes dans un système moniste, mais il y a quand même des mesures d'application qui devait être prise à travers une loi de mise en application. Et cette loi devait prévoir justement de manière claire quels sont les droits qui doivent être garantis aux suspects lorsqu'il venait à être arrêté. Et là-dedans, la possibilité justement de contester la procédure d'arrestation pourrait être prévue. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore une loi d'application. Et l'État congolais, essaie, à mon avis, d'appliquer les mesures qui sont les nôtres, donc les mesures ordinaires qui gouvernent donc l'arrestation des individus qui sont présumés avoir commis des infractions.
Alors, il y a cet auditeur, Maître Guy Mouchata, Miro Guinestor, qui nous écrit depuis Kisangani. Il se demande, en fait, il dit, je ne comprends pas qu'une telle cour puisse arrêter quelqu'un sans laisser le temps à la défense de connaître les dossiers. Cette situation illustre bien le caractère raciste de la CPI.
Non, je pense que l'auditeur se trompe là, on est au niveau du fond. Mais ce qui est important dans la procédure d'arrestation, c'est la forme. Le fond, c'est revient au juge qui a émis le mandat. Et la personne, justement, qui est interpellée, devra défendre devant ce juge. Donc le juge, l'autorité nationale, n'a pas à juger du fond, n'est-ce pas, d'un mandat qui est lancé et qui est émis par la CPI. Mais plutôt, l'autorité nationale doit respecter la forme, n'est-ce pas, qui mène à ce que la personne soit arrêtée et transférée. Et vous avez tout l'ensemble de dispositions justement sur la coopération, les chapitres sur la coopération au niveau de l'arrestation et des transferments des suspects qui est contenu dans les statuts de Rome. Et chaque État doit faire un effort justement de pouvoir prendre des mesures d'application qui permettent que ces procédures soient les plus adéquates et respectent, n'est-ce pas, les prévisions ou les provisions qui sont dans la loi nationale.
Mais Maître Guy Mouchat, on prend par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. On sait que ce pays a refusé de transférer Mme Simone Gbagbo à la CPI. Est-ce que la RDC ne pouvait pas aussi refuser de transférer Fidèle Babala?
Ben, je ne sais pas, madame. Ce n'est pas à mon niveau en tant que, je dirais, quelqu'un qui analyse les aspects technique de dire si l'État congolais devait ou pas refuser. Mais l'État congolais a l'obligation de coopérer. Mais comme vous avez constaté, Maître Aimé Kilolo, notre confrère, a été arrêté au niveau de la Belgique. Mais il y a toute une procédure qui doit être mise en marche avant son transfert. Mais à notre niveau, je ne sais pas, je n'ai pas évolué directement tout proche dans les dossiers. Je pense que le professeur Jacques Joly qui est là a dit qu'il a été appelé à la défense de l'honorable député qui a été arrêté. Lui seul peut nous éclairer dans les conditions dans lesquelles justement cette arrestation a été opérée. Donc, il n'est pas dit que quand l'État arrête la personne immédiatement au même moment d'arrestation, l'État le transfère et rien n'interdit cela. Mais c'est seulement que la procédure, parce qu'il existe une procédure qui est prévue et qui gouverne l'arrestation. Dans tous les cas, les droits qui sont garantis à l'individu et qui sont aussi dans les statuts de Rome doivent être respectés, parce que quelqu'un qui est arrêté comme suspect, il n'est pas un condamné, et même un condamné a des droits qui sont garantis par les statuts. Le plus important est que la procédure soit une procédure qui respecte les normes qui sont prévues, et ce sont des normes qui ne sont pas prévues sur la tête des X et Y, ce sont des normes qui ont été prévues, des normes générales qui gouvernent l'arrestation de quiconque qui tomberait sous le coup justement d'un mandat de la CPI ou qui tomberait sous le coup de la loi nationale, et il est important que ces dispositions soient respectées.
Alors, Maître Gumchat, il y a une autre réaction de Doudou King de Paris. Il dit ceci, je me demande pourquoi une telle rapidité pour le transfert de Babala et ceux qui sont arrêtés en France. Nous qui sommes proches de la haie, on suit la procédure et on se demande comment on peut arrêter un avocat dès la défense. N'est-ce pas là une intimidation? Cependant, il estime que c'est pendant l'audience que le juge devrait prouver la fausseté de ses documents.
Ben, madame, lorsque vous lisez les statuts de Rome par rapport à ce type d'infraction, en fait, personne n'est à l'abri. Parce que les dispositions des statuts de Rome disent, par exemple, pour ce qui est des témoins, qu'une fois que vous avez prêté serment et que vous alléguez de faux témoignages, vous pouvez être arrêté. Et que celui qui présente des faux documents en connaissance, justement, de cause, qui présente des documents tout en sachant que ces documents sont faux, ou quelqu'un qui intimide un membre de la cour, qui intimide un témoin, qui le pousse à pouvoir faire des fausses dépositions, est susceptible d'arrestation. Donc on ne fait pas de choix ni de distinguo, mais simplement si vous tombez sous le coup, évidemment, c'est à l'appréciation du juge à qui a été soumis la demande, je veux dire l'émission du mandat d'arrêt, c'est lui qui seul peut nous dire à ce stade de quels éléments il dispose. Merci. Justement, où il a disposé pour accepter, n'est-ce pas, l'émission de ce mandat.
Merci.
Mais la loi en tant que telle ne fait pas de distinction et la rapidité dans la procédure ou la non-rapidité, je pense que elle est fonction des dispositions légales en la matière.
Merci Maître Guy Mouchata. Professeur Ndjoli, vous vouliez réagir aux analyses du prof Kibango.
J'allais dire sans objet après avoir suivi Guy, le professeur, le Maître Guy Mouchata. Le problème que nous avons posé, ou que pose l'MLC, que nous la défendons d'avoir posé, ce n'est pas le problème de fond. C'est le problème de procédure en matière d'arrestation. Et madame, il faut pour ces points-là voir la question à deux niveaux. Avant que je vous donne les éléments de fait non couverts par la confidentialité. D'abord, les statuts de Rome eux-mêmes disent que, un, la personne arrêtée, l'arrestation doit se faire conformément à la législation de l'État requis. Ça, c'est l'article 59. Et en matière de coopération sur le procédure disponible en matière de remise de personnes, à l'article 89, dit tout doit se faire suivant les procédures prévues par la législation nationale. Mon estimé aîné et collègue, confrère, sait très bien qu'on n'arrête pas à n'importe quelle heure. Ça, c'est la procédure pénale basique. On ne peut pas, on n'arrête pas avant 21h et avant, après 21h et avant 5h du matin. Il le sait. Lorsqu'on va arrêter à 2h du matin, on est en dehors de la loi. On viole les prescrits de la Constitution, les articles 18 et 19. Lorsqu'on arrête quelqu'un à 2h du matin par les agents de l'ANER qui les conduisent dans les installations sans qu'ils puissent voir son magistrat naturel jusqu'à 12h. On est dans quelle situation de république qui honore sa parole? Les gens soulignaient les cas de Tangada, puisque la république devient subitement soucieuse de respecter les droits, la parole. Mais en Tangada, on ne l'a pas fait. Mais jusqu'à midi, M. Babala n'a pas été entendu. Et il a quitté ce pays sans avoir été auditionné par un magistrat. Vous vous rendez compte? Donc, c'est un rapt à lequel nous avons assisté. Et ce que nous posons pour M. Babala, c'est une situation que nous posons sur le plan général. Est-ce normal qu'un État qui a signé un traité puisse l'exécuter de manière cavalière en violation de sa propre législation? Quelles sont les garanties que disposent les citoyens congolais face à leurs propres États, face à leurs propres droits qui sont garantis par la Constitution et leur droit pénal national? On n'arrête pas n'importe comment, même si on doit tirer sur le bandit. Mais M. Babala n'est pas un bandit, c'est un député qui a une résidence. Faut-il le traiter comme on l'a traité? C'est la question. La manière cavalière dont déplorent tous les Congolais. Donc, la question que nous posons ici, c'est que, au-delà de M. Babala, comme hier, Gudjolo, Lubanga ou tout autre citoyen présumé innocent, puisque la République s'est engagée dans un traité international, que la République suive les règles à la matière et que la République ne fasse pas un jeu à géométrie variable et qui peut, n'est-ce pas, qui dénote d'une certaine précipitation et des intérêts qui peuvent rester obscurs. Voilà la préoccupation du MLC. Le respect de la procédure en matière d'arrestation. Ce n'est pas un aventurier, ce n'est pas un bandit. Même s'il était, il est présumé innocent et il a le droit constitutionnellement garanti. Et ses droits sont en plus garantis par les textes internationaux.
Alors, on va prendre pour vous rapidement, professeur Chatnjoli, cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud Kivu.
À moi, c'est Bissima de la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. Au moment où certains cadres du MRC commençaient à dire que Jean-Pierre Bemba sera Nelson Mandela pour le peuple congolais en 2016, la réalité devient tout autre et la situation va de mal en pis, étant donné que son avocat, voire ses proches, qui sont des hauts cadres du parti, viennent de les rejoindre à la CPI. Quel sera le comportement du MLC qui a pris part aux concertations avec l'idée que le pouvoir de Kinshasa plaiderait à la cause de Bemba dans la mesure du possible et qui vient de trahir Fidel Babala en les livrant à la CPI, que deviendra l'avenir de ces partis?
Brièvement, comment répondre à cet auditeur?
L'MLC a fêté le jour où on arrêtait M. Babala ses 15 ans d'existence. Son président national est embastillé depuis 7 ans. Le parti tient la route. Et l'objectif du parti, qui se déclare Mouvement de Libération du Congo, va continuer au-delà des individus. Et nous sommes confiants que, aussi longue que puisse être la nuit, le jour finira par, n'est-ce pas, poindre à l'horizon. Monsieur Jean-Pierre Bemba est jugé, le procès est extrêmement long, ce qui est déjà une violation des droits de l'homme, mais nous avons vu qu'en 2014, on allait passer aux plaidoiries. Les manœuvres dilatoires ne vont pas nous décourager et vous pouvez vous garantir que notre engagement aux concertations nationales ont été dictés par la nécessité de trouver des solutions consensuelles à la sortie des crises de ces pays et ce n'est pas des manœuvres des uns et des autres qui vont nous décourager.
Merci professeur. Professeur Tshibang Kalala et Thierry Massagiro de Goma, honneur qui vous qui dit ceci. Je pense que le gouvernement devrait procéder par des enquêtes avant de passer à une telle action. Le Congolais a le droit d'être jugé dans son pays. C'est vrai qu'on est signature du statut des Roms et que cela ne soit pas un alibi pour livrer certaines personnes à cause de leur appartenance politique. Vous avez suivi le professeur Chamcholi qui, pour lui, c'est la manière cavalière dont le député Fidel Babala a été arrêté. Il n'a pas été auditionné par un magistrat. Il a été transféré. Et voilà. Comment vous réagissez à cette préoccupation du MLC?
Oui. Écoutez, je suis d'accord avec mon collègue professeur Ndjoli sur le fait que lui ne remet pas en cause la décision du gouvernement de remettre le député Babala à la CPI.
C'est la procédure.
Donc, nous sommes d'accord. Il soulève des questions d'ordre procédural, la manière dont on a arrêté. Moi, je n'ai pas d'éléments à ce sujet. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Les autorités compétentes n'ont pas communiqué sur le sujet. Et donc, je ne vais pas rencontrer mon collègue sur ce qu'il vient de dire à propos des conditions d'arrestation. Je n'en sais rien. Ce qui est substantiel et qui intéresse l'opinion tant nationale qu'internationale, c'est savoir est-ce que le gouvernement congolais a exécuté ses obligations internationales. Sur ce point-là, nous sommes d'accord que oui, le gouvernement a respecté. Des questions des procédures d'arrestation, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je n'ai pas des éléments là-dessus. Maintenant, il y a l'auditeur qui se dit, mais écoutez, mais il y a précipitation, est-ce qu'on ne pouvait pas mener des enquêtes, etc. Vous savez, nous avons affaire au fonctionnement de la justice internationale. Le gouvernement congolais, qui est membre de la CPI, a des obligations. Lorsqu'il reçoit une demande d'arrestation, il ne lui appartient pas, et on l'a dit d'ailleurs, il n'a pas besoin de savoir est-ce que c'est fondé, est-ce que ce n'est pas fondé, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son travail. Ce travail-là se fera sur place à l'AE, à la CPI. Lui, le gouvernement se limite à procéder à l'arrestation. C'est tout. Et de transmettre la personne à la CPI. Maintenant, la personne aura des avocats, va s'expliquer. Le gouvernement ne peut pas aller au fond de l'affaire, n'est-ce pas ? Ne peut pas chercher à entendre la personne, est-ce que ce qu'on vous reproche, c'est fondé, c'est pas fondé, est-ce que vous avez fait ça ? Non, c'est juste vérifier l'identité de la personne. Monsieur, est-ce que c'est vous, honorable Babala, député Babala, que vous appelez, j'ai un mandat ici, on veut vous arrêter, est-ce que c'est vous, c'est pas vous ? Il vérifie seulement la régularité, l'identité de la personne, et puis procède à son arrestation. Maintenant, les autres questions, de savoir si on doit lui notifier, par exemple, ce qui lui est reproché, bon, mais ça, c'est le juge de la CPI qui va lui... Lorsque la personne sera là, dès les premières heures, on va dire, voilà, monsieur tel, vous êtes maintenant ici, on vous a arrêté, voici ce que la CPI vous reproche. Là, c'est devant le juge international qui le poursuit. Bon, ici, sur place, on n'ouvre pas une enquête ici, sur les faits infractionnels. On ne cherche pas, on ne juge pas ici. Ici, on est exécutant. On arrête et on présente la personne devant son juge. C'est là qu'on va lui poser des questions. C'est là qu'il va s'expliquer. Donc, c'est comme ça que ça se fait.
Et même pour ce genre d'infraction, on est vraiment obligé d'envoyer l'accusé ou le suspect à la CPI.
Mais, madame, je ne vais pas rentrer dans les faits infractionnels. On l'a dit, Maître Mouchata est revenu là-dessus à plusieurs reprises, eh bien, ils sont poursuivis pour atteinte à l'administration de la justice. La subornation des témoins, même dans le droit pénal congolais, cette infraction existe, la subornation des témoins. Bon, à ce stade, on ne peut pas dire que c'est fondé. C'est fondé. Ils sont toujours innocents. Mais la justice internationale dit que ces personnes ont tenté de porter atteinte à l'administration de la justice en subornant les témoins, en fabriquant de faux documents. Mais ça, ce sont les faits. Ces faits seront jugés à l'AE, pas ici à Kinshasa. Vous voyez le problème. Et donc, ce n'est pas au gouvernement congolais, ce n'est pas aux autorités congolaises de commencer à apprécier la gravité ou pas la gravité des faits infractionnels qui sont mis à charge de la personne qui est poursuivie. Et il se limite à constater qu'il y a un mandat d'arrêt international.
Le gouvernement ne peut pas protéger ses citoyens.
Mais le gouvernement ne peut pas être un complice des personnes qui sont poursuivies par la justice. Ça sera quel type de gouvernement, madame? Un gouvernement fantoche? On ne peut pas demander au gouvernement congolais de se faire complice des Congolais qui sont poursuivis sur le plan international pour avoir commis certaines infractions. Merci. Ça sera quel gouvernement, ça? Merci. Et donc, moi, je me réjouis de voir que le gouvernement de la République a respecté ses engagements internationaux. Il est là comme un élève modèle, n'est-ce pas, de la classe du droit international. Il s'est bien comporté, il a honoré le peuple congolais, il a honoré la République, et il se fait respecter au sein de la communauté internationale.
Merci, professeur Tshibangu.
C'est là quel gouvernement qui va se faire complice des Congolais.
Merci, professeur. Professeur Tshibangu Kalala. Maître Guinou Mouchata, il nous reste moins de 5 minutes, 23 fins à cette émission. Beaucoup des Congolais, hein, quand même, estiment que le moment a été mal choisi, quand même, pour la CPI de pouvoir arrêter, de faire arrêter ces citoyens congolais.
Vous adressez à moi, madame?
Non, à Maître Guy Mouchata. Maître Guy Mouchata, bon, vous êtes...
Oui, je vous écoute, madame. Le choix du moment pour lancer des mandats d'arrêt, bien choisi, mal choisi, bon, je pense que c'est assez délicat d'affirmer ou d'infirmer cela. Mais toujours est-il que lorsque nous nous référons encore à la loi, elle ne dicte pas des moments précis ou des moments opportuns ou non opportuns pour procéder justement à des arrestations. La Cour est là comme organe répressif. C'est ce que les citoyens doivent savoir. La Cour pénale, c'est un organe de répression, mais de répression judiciaire, pas de répression arbitraire, mais de répression judiciaire. C'est pourquoi il est important, à mon avis, que justement, lorsqu'un État parti exécute même le mandat de la Cour pour donner un bon exemple justement d'une bonne administration de la justice, que les dispositions légales soient respectées, que ce soit les dispositions là où le statut prévoit que les dispositions nationales doivent être respectées, que ces dispositions soient respectées, là où le statut prévoit justement que le pays doit prendre des mesures d'application qui soient connues de tout le monde, de telle sorte qu'on en arrive au fait que lorsque quelqu'un est arrêté et transféré, qu'on arrête d'avoir des discussions, est-ce que la personne a été bien arrêtée, la personne a été mal arrêtée, parce que la plupart des cas que nous connaissons, des gens qui ont été arrêtés, quand ils arrivent au niveau de la Cour pénale internationale, au niveau du juge de la CPI, la première chose qu'ils font, c'est de contester les modalités de leur arrestation.
Merci.
Comme je l'ai dit encore tantôt, moi je n'étais pas présent, je ne peux pas juger de la procédure.
Merci,
mais j'ai
Maître Guy Mouchata.
En tant que juriste, pour dire que les statuts de Rome doivent être appliqués intégralement.
Merci, Maître Guy Mouchata. Professeur Jacques Joly, je vais vous demander de conclure, on n'a plus beaucoup de temps.
Oui, je crois que nous allons conclure. Un État qui se veut respectable, respecté, c'est un État de droit. C'est un État qui remplit ses devoirs en respectant les droits. Un État qui est soumis aux droits. Un État qui viole son propre droit, c'est un État qui se méprise lui-même. Donc, en violant son propre droit, et surtout le droit international pénal qui impose le respect de la législation nationale.
Merci.
Et les détenus ou les personnes poursuivies à ce niveau-là ont même le droit de demander la liberté
provisoire. Merci, professeur Tshibangu. Conclusion.
Oui, je me réjouis de voir que le gouvernement congolais à respecter ses obligations internationales en livrant M. Babala à la CPI. Et en faisant cela, le gouvernement à honorer la signature du peuple congolais,
merci,
à honorer la signature
Chibangu
de la RDC.
Kalala, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Bonne suite de programme sur la fréquence de la télé.